Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Comment évolue l'agriculture africaine? Nous en parlons dans cette émission, cela à l'occasion du Salon international de l'agriculture au Maroc, le SIAM, dont la 15e édition se referme ce dimanche à Meknès. Nous en parlons dans quelques instants. Nous parlerons aussi du développement des startups en Afrique. Quelles sont les 20 startups africaines dans le secteur de la tech à surveiller dans les prochaines années? Notre invité, Quentin Veluet, journaliste au groupe Jeune Afrique, sera notre invité. Tels sont les principaux sujets de cette émission. Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Je vous le disais à l'instant, le SIAM referme sa 15e édition à Meknès ce dimanche. Le Salon international de l'agriculture au Maroc est l'occasion pour le Royaume de partager son expérience dans le domaine agricole. Justement, comment va ce secteur ainsi que celui de l'agroalimentaire dans le continent? On en parle avec Hervé Omvoy, il est expert producteur dans le domaine agricole. Bonjour à vous, Hervé Omvoy.
Bonjour, monsieur Omar.
Alors, la question que tout le monde se pose, c'est comment va le secteur de l'agroalimentaire en Afrique avec la crise en Ukraine et toute cette flambée qu'on a connue sur les matières premières. Comment va l'agroalimentaire en Afrique, Hervé Omvoy?
Mais déjà merci encore pour l'opportunité que vous nous offrez pour donner notre avis sur le secteur agroalimentaire en Afrique. Mais ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que tout le monde a paniqué, le monde de manière générale et l'Afrique en particulier, sachant que nous sortions de la Covid-19, nous avons pris peur. Mais petit à petit, on constate que la transformation agroalimentaire en Afrique, qui aujourd'hui présente des énormes opportunités, mais également, il y a des défis qui subsistent. Et on voit de l'Égypte en passant par le Maroc, l'Algérie, en arrivant en Afrique de l'Ouest avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, et en descendant en Afrique australe avec la Zambie, le Zimbabwe, il y a même le Ghana, il y a un élan, il y a une dynamique qui est mise en place. Et donc, nous pensons que grâce à cette dynamique qui est mise en place, aux gros investissements qui sont faits par plusieurs États, on parle aujourd'hui d'investissements en millions de dollars dans le secteur agricole, nous pensons que malgré les défis qui subsistent, l'agriculture, l'agroalimentaire africain, notre agriculture présente des opportunités très importantes, Omar.
Des opportunités très importantes. Alors, qui parle de ces opportunités, justement, doit certainement évoquer la question de la transformation locale. On sait tous que l'Afrique est le continent agricole, en tout cas en termes d'opportunités agricoles, est le continent donc par excellence qui dispose de ses ressources. Mais qu'en est-il de la transformation locale de ces produits agricoles, Hervé Omvoy?
Vous savez, une crise amène ou conduit à une réflexion. Et l'Afrique s'est mise justement dans ce processus de réflexion. Et c'est pour ça que vous voyez dans plusieurs pays aujourd'hui, les investissements sont en train de se faire dans le secteur de la transformation. D'accord, nous produisons, nous vendions à l'époque des produits bruts, mais de manière générale, depuis deux ans, on constate que plusieurs pays sont en train de mettre en place des mécanismes de transformation. Cette transformation-là crée une nouvelle vague d'entrepreneurs. Je peux vous donner un exemple avec la tomate au Nigeria. Le Nigeria produit de la tomate, le Nigeria transforme sa tomate. On prendra le même exemple au niveau de la Zambie. La Zambie produit du blé, il transforme son blé. La même chose est en train de se faire dans plusieurs pays sur le manioc. On retrouve beaucoup de firmes qui font dans la transformation du manioc aujourd'hui en Afrique. C'est pareil pour le maïs. Donc, l'Afrique, on était en dernier dans ce positionnement de transformation, mais la situation actuelle, la crise actuelle nous conduit à mettre en place des outils de transformation qu'on trouve un peu partout dans les grands pays agricoles africains.
Mmh. Alors, une dernière question, Hervé Omva. Quels sont les produits qui offrent le plus d'opportunités pour les investisseurs qui souhaitent se lancer dans la transformation des produits agricoles en Afrique?
Aujourd'hui en Afrique, je vous dirais principalement, vous avez des produits tels que le maïs, la chaîne de valeur qui est très importante, aussi bien pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation animale. Vous avez également la même chose pour le manioc, le café, le cacao, la canne à sucre. Et aujourd'hui, l'Afrique a des terres, l'Afrique a des hommes d'expertise, l'Afrique a également l'énergie capable d'installer des unités de transformation.
Mmh, l'Afrique, donc, a les hommes, la matière, mais aussi l'énergie de procéder à ces transformations sur le plan agricole. Merci à vous, Hervé Omva. Je rappelle que vous êtes expert du secteur de l'agroalimentaire en Afrique. Merci à vous pour ces réponses dans Coémergence.
Merci beaucoup.
Coémergence. L'invité.
Il s'agit de Quentin Veluet, il est journaliste au groupe Jeune Afrique. Nous parlons avec lui du développement des startups sur le continent. Quelles sont les 20 startups africaines dans le secteur de la tech à surveiller dans les prochaines années? De quels pays sont issues ces startups? Surtout, quels sont les secteurs en vogue dans ce domaine? Nous en parlons avec donc notre invité, Quentin Veluet. Bonjour à vous, Quentin. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Omar, bonjour à tous.
Alors, Jeune Afrique, je le rappelle, a consacré un dossier spécial à ces startups en Afrique. Alors, que retient-on de cette, entre guillemets, de cette étude que vous venez de faire sur les startups en Afrique?
Alors oui, justement, alors peut-être un petit point de contexte avant les points à retenir. C'est un travail en fait de 3 mois mené auprès de 30 investisseurs les plus actifs en termes de transactions sur le continent. Donc on a envoyé une trentaine de questionnaires, une vingtaine nous sont revenus et l'idée c'était d'avoir leur avis concernant les startups les plus prometteuses d'Afrique parmi celles qui ont moins de 3 ans et qui n'ont pas dépassé le stade de la série A. Donc l'objectif c'était vraiment non pas de présenter des noms connus, bien qu'il y en ait, vous le verrez, mais vraiment de nous baser sur le potentiel des jeunes pousses citées et finalement de présenter des startups qui pour certaines n'ont levé que quelques centaines de milliers de dollars jusqu'ici. Alors ce qu'il faut retenir c'est peut-être qu'à ce niveau de développement d'une jeune entreprise, finalement les investisseurs ils regardent surtout les parcours et l'expérience du ou des fondateurs plus que leur formation académique. On voit parmi les fondateurs citer des ex de la start-up Andela qui a formé des jeunes codeurs ou de la plateforme e-commerce Jumia, ce qui dénote en fait une certaine maturité de l'écosystème qui parvient aujourd'hui à former ses propres nouveaux entrepreneurs. Un deuxième point à retenir, c'est que 20% des startups qui sont citées dans notre liste sont fondées ou cofondées par des femmes. Donc c'est un point important quand on sait qu'elles n'ont capté au total que 2,4% des capitaux investis l'an passé. Et Dernier point à retenir, c'est que, de fait, quelques jours avant la publication de notre dossier, une des startups citées, une startup sénégalaise qui s'appelle Chargel, a annoncé avoir clôturé un tour de table de 2,5 millions de dollars pour poursuivre son développement. Donc, on peut penser qu'on n'a pas été, nous ne sommes pas réellement trompés dans notre dans nos recherches.
Mmh, voilà. Donc, de l'objectivité apparente donc dans ce que vous venez de faire comme travail, justement. Quand on essaie de ventiler d'en savoir davantage ces startups par rapport à leur zone géographique et de leur pays, parce qu'habituellement en Afrique, on sent que l'Afrique anglophone est en avance par rapport à l'Afrique francophone dans ce domaine-là. Quelles sont les nationalités de ces startups africaines à surveiller?
Alors, ce qu'on voit dans notre liste, c'est que finalement, la photographie n'est pas originale. On voit d'abord le Nigeria qui place 9 noms à cette liste. Le Nigeria est connu jusqu'ici pour être l'un des plus prolifiques et dynamiques marchés de la tech sur le continent. Donc, voilà, notre étude reflète cette photographie-là. Mais l'Afrique francophone, finalement, n'est pas en reste, puisque le Maroc, par exemple, place 2 noms, notamment, je pense, à la star du moment qui est Chari, la start-up créée par Ismaël Bestrayat et Sophia Alge. Mais aussi une start-up qui est un petit peu plus, un peu moins connue, je pense, qui s'appelle Data Pathology, qui est une start-up qui se développe dans la santé et qui lutte contre les déserts médicaux en proposant des diagnostics et de l'analyse médicale à distance. Donc l'Afrique francophone est quand même dans le jeu, notamment aussi avec le Sénégal qui place 2 noms et la Côte d'Ivoire. Qui compte une start-up à cette liste.
Alors, cela dit, quand on parle du monde des start-up, ce que l'on surveille le plus souvent, ce sont ces fameuses licornes. Parmi toutes ces start-up que vous avez scrutées, est-ce qu'il y en a des licornes en émergence ou plutôt des licornes déjà établies?
Alors non.
Juste, je rappelle à nos auditeurs avant de vous laisser le soin de répondre, Quentin Velluet, c'est qu'une licorne, c'est alors pour faire une définition simple, c'est une start-up qui est valorisée à plus d'un milliard de dollars. Est-ce que parmi ce que vous avez vu, il en existe?
Alors justement, non, c'était l'objectif de ce dossier, c'était vraiment d'essayer de voir l'émergence de nouvelles potentielles licornes, mais de les prendre vraiment à un développement très tôt. Donc toutes les startups qu'on a étudiées ont moins de 3 ans et n'ont pas dépassé ce stade qu'on appelle de la série A, c'est-à-dire la première levée de fonds qui souvent rime avec un business model bien développé, une ambition d'expansion géographique et de premiers profits. Donc là, les startups qu'on présente dans cette liste sont loin de ce statut-là de licorne, mais on espère que la plupart d'entre elles atteindront ce niveau-là, mais je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire laquelle.
Alors, je rappelle qu'actuellement, on compte environ une dizaine de licornes en Afrique. Est-ce que vous pensez que les conditions actuelles, le contexte économique est favorable à l'émergence de start-up licornes sur le continent, Quentin Velluet?
Alors, ce qu'on constate, c'est que quand même depuis ces 4 dernières années, l'engouement pour l'investissement dans les startups africaines n'a fait que croître de manière exponentielle. Si je me rappelle bien, en 2022, je crois le total des fonds investis dans les startups du continent s'élève à 5,4 milliards de dollars. Et ce chiffre n'a fait qu'augmenter ces 4 dernières années avec peut-être un petit point d'inflexion en 2020 à cause de la pandémie. Là, actuellement, on est dans une période de relative atonie du marché, mais qui n'est pas propre à l'Afrique, qui est mondiale du fait de l'élévation des taux directeurs de différentes banques centrales et donc d'un de certains investisseurs qui attendent des jours plus heureux pour investir. Il n'en reste pas moins que le dynamisme se poursuit sur le continent. Les startups continuent de lever des fonds, peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, du côté des investisseurs, des nouveaux fonds se créent. Donc, ça veut dire que dans quelques mois, on peut espérer que le dynamisme soit de retour et que les grosses levées de fonds soient de retour également.
Merci à vous, Quentin Veluet. Je rappelle que vous êtes journaliste au groupe Jeune Afrique. On parlait avec vous à l'occasion donc de ce dossier sur les startups africaines qu'il faudrait surveiller dans les années à venir. Vous en avez listé une vingtaine. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Merci.
À la prochaine. Merci.
Au revoir.
Destination Éco.
Direction le Nigeria, l'un des premiers exportateurs africains de pétrole. Le pays s'est récemment doté de sa toute première raffinerie, alors que le président élu Bola Tinubu s'apprête à entrer en fonction dans quelques semaines. On voit tout cela avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Le gouvernement fédéral du Nigeria avait de nouveau annoncé que les subventions des produits pétroliers devaient cesser avant la fin du mandat du président Muhammadu Buhari le 29 mai prochain. Mais les autorités estiment finalement que ce n'était pas le moment favorable pour supprimer la subvention au carburant. Certains experts et analystes soutiennent la suppression de la subvention au carburant.
Cela va définitivement contribuer à augmenter l'inflation. Les prix des services vont aussi augmenter, tout comme le transport. C'est une pilule amère que nous devons avaler si l'on veut que les choses s'arrangent pour l'économie.
Beaucoup de Nigériens pensent que le processus de subvention de l'industrie pétrolière est extrêmement inefficace et ne complète pas la recherche des revenus du gouvernement. Cela n'a pas atténué non plus les souffrances des personnes à faible revenu ou mis fin à la pénurie persistante de carburant au fil des ans. Cette spécialiste de développement explique que le Nigeria peut passer à d'autres options.
Why don't we look for other options? Why don't we look for other ways where there are leakages?
Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à d'autres options? Pourquoi on n'essaie pas de trouver d'autres moyens pour arrêter les évasions fiscales? Les détournements de fonds par les entreprises représentent des sommes colossales. Il y a aussi la corruption. Il faut trouver des moyens de faire face à cela.
Leakages in terms of corruption, leakages in terms of even the high cost of governance.
L'annonce du gouvernement avait suscité des inquiétudes chez les Nigériens à cause des effets que l'élimination des subventions pourrait avoir directement sur le prix de l'essence à la pompe et sur les personnes à faible revenu.
Supprimer la subvention sur le carburant n'est pas un problème. S'ils disent qu'ils supprimeront les subventions et nous aideront, c'est une bonne idée. Mais s'il y a suppression sans que rien ne change, sans aide et soutien, ça ne va pas.
Le Nigeria subventionne son industrie pétrolière depuis 1980 suite à la décision de la société d'État, la NNPC, de fixer le prix du pétrole en fonction du marché mondial. Ce système qui pèse de plus en plus sur le budget de l'État reste un sujet de controverse au Nigeria, première économie du continent africain depuis le début des années 80.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Médium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.